Théologie biblique, Père Philippe, 22 février 1984, Saint-Joseph.
Dieu ayant choisi Abraham à l'âge de 60 ans, 75 ans, n'oubliez pas, c'est pas 60 ans, et Isaac à peu près au même âge, peut-on dire qu'il préfère les adultes d'un certain âge, car ils possèdent... ont déjà acquis une certaine sagesse et sont donc plus malléables. Avis aux amateurs, hein ? Vous savez, il n'y a pas d'âge pour Dieu. Les uns sont choisis comme Jean-Baptiste dès le sein de leur mère et les autres sont choisis comme Abraham. Enfin, les deux vocations extrêmes. Abraham, 75 ans, Jean-Baptiste, 6 mois après sa conception. C'est très déroutant. Mais on voit très bien, c'est pour deux vocations très différentes. Le père de la foi, donc le dépassement de la foi par rapport à la prudence. Et celui qui est le modèle de l'espérance, le petit Jean-Baptiste. Alors la fragilité, la précarité de l'espérance dans un Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, ce n'est pas tout à fait le même qu'Abraham. Et c'est très beau de voir les deux en parallèle, hein, les deux grandes physionomies. L'un au point de départ, l'autre au terme. L'un ouvre une maison, l'autre la ferme. C'est l'espérance qui ferme la maison. Et c'est la foi qui l'ouvre. C'est extraordinaire, ça. C'est l'espérance qui nous met au désert. Et la foi qui nous fait pèlerin. Je crois, à travers Abraham et à travers Jean-Baptiste, on découvre magnifiquement ces deux grandes vertus théologales, la foi et l'espérance. Puisque Dieu parle à travers des hommes. Dieu se sert d'Abraham pour nous enseigner ce que c'est que la foi. Dieu se sert de Jean-Baptiste pour nous apprendre ce que c'est que l'espérance. Et Dieu se sert de son Fils bien-aimé pour nous apprendre ce que c'est que l'amour. C'est Jésus qui nous apprend l'amour. C'est l'agneau, c'est l'époux. Voilà, vous voyez, c'est particulier, Abraham, hein, c'est très particulier. Alors nous avons commencé à le point de vue d'Isaac. Je vais assez vite pour tout ce qui représente, non pas une répétition, comme vous avez dit la dernière fois, l'Esprit Saint n'aime pas les répétitions, mais l'Esprit Saint fait quelquefois des choses très semblables pour que nous comprenions mieux l'originalité nouvelle. Il faut découvrir ce qu'est la physionomie d'un Isaac. Abraham, c'est facile. Première paternité, seconde paternité, troisième paternité, les trois paternités. Parce qu'ils sont tous les trois pères. Et l'alliance à l'égard des trois, c'est une alliance dans la fécondité à l'égard de la paternité. C'est donc très important de découvrir la paternité d'Abraham, la paternité d'Isaac. C'est tout à fait autre chose, la paternité d'Isaac. Abraham, on n'a pas parlé de lui avant qu'il avait 75 ans. Pour qu'on comprenne mieux ce que c'est que le père. Tandis qu'Isaac, c'est le fils et le père. Et donc c'est pour ça qu'on a montré qu'il était très fils. Et l'emprise de Sarah sur Isaac montre bien combien il est fils. Il est petit enfant. Et alors on montre ensuite sa paternité, c'est-à-dire l'alliance que Dieu fait avec lui. Donc on avait vu la petite histoire de Gérard, hein. Il y eut une famine dans le pays, je ne reprends pas, chapitre 26, pour montrer qu'il y a là un parallélisme avec l'histoire d'Abraham. Et je vous ai essayé de faire comprendre comment ce parallélisme doit se comprendre. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père au jour d'Abraham, son père, les Philistins les avaient bouchés et remplis de terre. Nous l'avions déjà vu ça. Abimelech dit à Isaac, « Va-t'en d'ici, car tu es devenu beaucoup trop fort pour nous. » Bon, rivalité, c'est très net. Isaac s'en alla donc de là, campa dans la ville de Gérard et y habita. Isaac creusa de nouveaux puits, de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés au jour d'Abraham, son père, que les Philistins avaient bouchés après la mort d'Abraham. Il leur donna les mêmes noms que leur avait donné son père. Oui, ce procédé de montrer le fils semblable au père. Il y a quand même quelque chose qui est très important à voir cela. Tout ce que le père fait, le fils le fait pareillement. C'est dit dans Saint Jean par rapport à Jésus. Alors, je crois évidemment, on peut regarder ça psychologiquement et montrer, Isaac a tellement été séduit par son père, comme il était avant Freud, il imite son père. S'il était venu après Freud, il serait mis dans un état de révolution avec son père. Mais comme il était avant, il lui ressemble. On voit très bien. La révolution n'était pas encore venue. Alors, il imite. Je crois que c'est pour nous faire entrer dans cette parole si importante dans Saint Jean, tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Alors, il s'agit de comprendre, pas un niveau psychologique, mais un niveau beaucoup plus profond, de finalité. Le Père donne la finalité. C'est le propre du Père. Le Père, c'est celui qui attire. La paternité, c'est quelque chose de tellement grand dans l'Écriture. La révélation de la paternité. Bien, la révélation de la paternité va avec la révélation de la finalité. C'est le Père qui fait comprendre ce que c'est que la finalité. C'est pour ça que c'est le Père qui attire. Il leur donna les mêmes noms que leur avait donné son Père. Les serviteurs d'Isaac creusèrent dans la vallée. Ils y trouvèrent un puits d'eau vive. Un puits d'eau vive. C'est pas seulement un puits d'eau, mais c'est l'eau vive. Vous savez, l'eau vive, c'est l'eau qui est liée à sa source. C'est comme ça que saint Thomas définit l'eau vive. C'est très joli du reste. L'eau vive, c'est l'eau qui est liée à sa source. Tandis que l'eau de puits, c'est une eau qui est simplement reçue. Et l'eau vive, c'est celle qui jaillit d'une source. Alors les puits, normalement, un bon puits est lié à une source. Un bon puits. C'est pas seulement pour recevoir. Il leur donna les mêmes noms que leur avait donné. Les serviteurs d'Isaac creusèrent dans la vallée et ils y trouvèrent un puits d'eau vive. Mais les bergers de Gérard cherchèrent querelle aux bergers d'Isaac, on trouve la même chose, en disant « L'eau est à nous ». Isaac appela le puits du nom d'Essec, parce qu'il s'était disputé avec lui. Ils creusèrent un autre puits et on se querella encore à son sujet. Il l'appela du nom de Sitna. Étant parti de là, il creusa un autre puits et on ne se querella pas à son sujet. Il l'appela du nom de Rehoboth. Car maintenant, dit-il, Yahvé nous a mis au large et nous fructifierons dans le pays. Alors voyez, ça c'est pour montrer la magnanimité d'Isaac. Il y a la magnanimité d'Abraham. Abraham, il est magnanime. Celui qui exerce l'autorité paternelle doit être magnanime. Autrement, il n'est plus père. C'est ça le propre de l'autorité paternelle. Parce que c'est l'autorité dernière. Une autorité de sous-fifre, c'est pas paternel. Une autorité d'adjudant, vous voyez, c'est pas paternel, c'est impossible. Tandis que l'autorité de celui qui a l'autorité ultime, alors lui peut être magnanime dans son autorité. Et pour être magnanime, il faut être contemplatif. C'est le vieil Aristote qui souligne cela, et c'est tellement vrai. Seul le contemplatif est magnanime, parce qu'il dépasse l'efficacité. Celui qui ne regarde que l'efficacité n'est jamais magnanime. Parce qu'il prend en fonction de l'efficacité. Alors on n'est pas magnanime. Celui qui est contemplatif, alors celui-là, il maintient un amour et il peut être magnanime. C'est très très beau de saisir comment la magnanimité jaillit de la contemplation. Et on voit bien ici, Isaac est magnanime. Si Isaac était uniquement au niveau de l'efficacité, vous comprenez bien. Un puits, deux puits, alors à la fin, on voit très bien ce qu'on pourrait dire, et renvoyer le bonhomme, pas du tout. Il continue. Parce que pour lui, la paix est plus grande que l'efficacité. Ça fait partie de l'économie divine. Rechercher la paix, c'est plus que de rechercher l'efficacité. Celui qui ne recherche que l'efficacité ne sera jamais en paix. Donc je crois que ça, c'est à la fois le fils imite le père, fait tout ce qu'il veut, et puis en même temps, non seulement il imite, vous voyez, dans ses gestes, mais il imite d'une façon beaucoup plus profonde dans sa contemplation. Et donc il est magnanime comme le père, il est magnanime comme Abraham. De là, il monta à Bethsabée. Yahvé lui apparut cette nuit-là et dit « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains pas, car je suis avec toi. Je te bénirai, multiplierai ta descendance à cause d'Abraham, mon serviteur. » Vous voyez comme c'est beau. Hein? Abraham, ton père, Abraham, mon serviteur. Hein? Ça, c'est net. Pour désigner les deux grandes relations d'Abraham hein? Et montrer la grandeur d'Abraham. Là, il bâtit un autel et invoqua le nom d'Yahvé. Là, il tendit sa tente, et là, les serviteurs d'Isaac forèrent un puits. Abimalek alla le trouver de Gérar, avec Ahuzat, son ami, et Picol, le chef de son armée. Isaac lui dit, « Pourquoi êtes-vous venu me trouver alors que vous me haïssez et vous m'avez renvoyé de chez vous ?» Et dire, nous avons vu clairement que Yahvé était avec toi. Et nous avons dit qu'il y ait un serment imprécatoire entre nous, entre nous et toi. Concluons alliance avec toi. Tu ne nous feras pas de mal, de même que nous ne t'avons pas touché, de même que nous ne t'avons fait que du bien et t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant le béni d'Yahvé. Il leur fit un festin et ils mangèrent et burent. Ça, c'est la bonne alliance. Pas ? Ça se termine par la fête. On le sait bien. Mais il faut l'alliance avant la fête. Aujourd'hui, on fait la fête sans l'alliance. Vous voyez, là, ça ne dure pas. Tandis que quand la fête est là pour montrer l'épanouissement de l'alliance, c'est très beau alors. Là. Ils se levèrent de grand matin et se prêtèrent serment l'un à l'autre. Puis Isaac les laissa partir, et ils s'en allèrent de chez lui en paix. Alors, voyez, là, on retrouve exactement la même chose que pour Abraham. C'est sûr. Donc, si je regarde d'un point de vue purement psychologique, je dis, c'est le phénomène de répétition. Si je regarde d'un point de vue beaucoup plus divin, c'est toujours la bénédiction du Père qui rejaillit sur le Fils. Et donc, tout ce que Dieu a donné à Abraham, nous le retrouvons d'une autre manière, mais dans Isaac. Pour bien nous faire comprendre ça, l'efficacité de la bénédiction de Dieu. Alors, vous voyez bien comment l'alliance avec Dieu implique l'alliance avec les hommes. Comment l'alliance avec Dieu est victorieuse de l'ennemi. Comment la charité doit nous faire aimer nos ennemis. C'est une première préfiguration, hein. Lointaine, mais c'est une première préfiguration à l'égard d'Abimalek. Pourquoi êtes-vous venu me trouver alors que vous me haïssez et m'avez renvoyé de chez vous ? C'est l'amour à l'égard de Dieu qui est victorieux de la haine. Donc c'est bien l'amour à l'égard de Dieu, l'alliance avec Dieu qui est féconde d'un pacte, d'un serment. Or, en ce jour-là, les serviteurs vinrent lui donner des nouvelles du puits qu'ils avaient creusé. Ils lui dirent, nous avons trouvé l'eau. On l'appela le puits Sabé. Voilà pourquoi le nom de la ville est Bethsabée jusqu'à ce jour. Il faut expliquer les noms. Hein. Alors derrière, il y a tout ça, hein. Il y a tout ce petit jeu des noms qui est intéressant. Je ne m'attarde pas là-dessus, mais c'est très intéressant de voir comment on veut expliquer l'origine de ces lieux, et c'est lié au puits, l'importance des puits d'eau pour le désert, on comprend très bien. Ça fait partie des bénédictions de Dieu. Ça fait partie de l'économie divine. Quand Ésaü fut âgé de 40 ans, il prit pour femme Judith, fille de Béri, le Hittite, et Basma, fille d'Élon, le Hittite. Elles furent un sujet d'amertume pour Isaac et pour Rebecca. On souligne tout simplement ça, ça c'est merveilleux. Vous voyez bien, Ésaü, ça reste. Hein. Elles furent un sujet d'amertume pour Isaac et Rebecca. Isaac, alors c'est bien placé. Hein. Chapitre 27, nous allons alors ici découvrir le grand moment tout à fait particulier à Jacob, je veux dire à Isaac. Du point de vue tout à fait particulier. Parce que jusque-là, il est semblable. Et en même temps, il y a quelque chose d'unique. Alors, le quelque chose d'unique, c'est l'épreuve. Il y a l'épreuve pour Abraham. Il y a l'épreuve pour Isaac. Il y aura l'épreuve pour Jacob. Autrement dit, il y a trois grandes épreuves par rapport à ces trois pères. Alors, on essaiera de comprendre le caractère théologique de ces trois épreuves. L'épreuve de la foi, l'épreuve de l'espérance, l'épreuve de l'amour, qu'on retrouve à l'intérieur même de la paternité. Isaac était devenu vieux, et ses yeux s'étaient affaiblis au point de ne plus voir. On ne dit pas qu'il est aveugle, hein, mais ses yeux se sont affaiblis au point de ne plus voir. Il appela Ésaü, son fils aîné. Son fils aîné, hein, qui n'a pas eu une conduite magnifique, puisqu'il a épousé ses filles de Hittite, et qui était un sujet d'amertume. Hein. Donc on souligne ça, c'est très très beau, vous voyez. La magnanimité d'Isaac, malgré ça, malgré l'amertume qu'il a dû subir à cause de Judith et de Basmat, l'amertume qu'il a connue. Malgré ça, Ésaü est le fils aîné. Isaac reste dans la justice, l'ordre de la justice. Et on va voir que Dieu va renverser cet ordre de justice dans un ordre de miséricorde. C'est pour ça que c'est un moment très très important, ça. Ce chapitre 27, il est capital pour essayer de comprendre le renversement que Dieu fait. Isaac était devenu vieux. Il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit « Mon fils ». Celui-ci lui dit « Me voici ». Ça, c'est toujours le dialogue entre père et fils. Hein. Il ne faut jamais l'oublier, ça commence comme ça. C'est toujours « Me voici ».« Mon fils, me voici ». Isaac dit « Me voici devenu vieux ». Je ne sais pas le jour de ma mort. Et maintenant, prends ton attirail, ton carquois et ton arc. Sors dans la campagne et chasse pour moi du gibier. Il va réaliser son testament. C'est ça qu'il faut comprendre. Il ne sait pas le jour de sa mort, mais il est devenu vieux. Donc, il va réaliser son testament. Et c'est à l'égard de ce testament que Dieu va jouer son choix qui ne sera pas un choix de justice. Et donc, il ne sera pas selon le goût d'Isaac, qui ne sera pas selon ce que Isaac, dans sa prudence de père, était obligé d'accepter. Et maintenant, prends ton attirail, ton carquois et ton arc, sors dans la campagne et chasse pour moi du gibier. Puis prépare-moi un régal comme je l'aime. Apporte-le-moi que je mange, pour que mon âme te bénisse avant que je meure. Le dernier bon repas, mais un repas quasi religieux. C'est, 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 c'est lié à une bénédiction, c'est lié à quelque chose de très particulier, transmission d'une bénédiction. C'est un repas religieux. Et Rebecca écoutait pendant qu'Isaac parlait à Ésaü, son fils. C'est bien Rebecca, elle veille, elle sait bien qu'il vieillit. Hein. Donc elle doit savoir qu'à un moment donné, il va y avoir quelque chose à faire. Rebecca écoutait pendant qu'Isaac parlait à Ésaü, son fils. Ésaü alla dans la campagne chasser du gibier pour son père. Rebecca dit à Jacob, son fils, « Voici que j'ai entendu ton père parler à Ésaü, ton fils, en ces termes. Apporte-moi du gibier, prépare-moi un régal, que je mange et que je te bénisse devant Yahvé avant ma mort. » Et maintenant, mon fils, écoute bien ce que je vais te commander. Vous voyez, l'ordre de la justice et l'ordre d'une prédilection gratuite, qui a quand même un fondement. Ce n'est pas de la pure gratuité, ça a un fondement. Et maintenant, mon fils, écoute bien ce que je vais te commander. Va au troupeau, prends-moi de là deux beaux chevreaux. J'en préparerai pour ton père un régal comme il l'aime. Tu l'apporteras à ton père et il mangera pour qu'il te bénisse avant sa mort. Jacob dit à Rebecca, sa mère, « Mais Ésaü, mon frère, est un homme velu et moi, je n'ai pas de poils. » Depuis sa naissance, il est comme ça. C'est très, très joli, ça. Alors évidemment, quand on est aveugle, le toucher, ça joue double. Alors le velu passe avant. Il a un droit particulier. Peut-être mon père va-t-il me palper. Et je passerai ses yeux pour un railleur. Et je ferai venir sur moi une malédiction et non une bénédiction. Sa mère lui dit, ta malédiction, qu'elle soit sur moi, mon fils. Écoute-moi seulement. Et va me prendre les chevreaux. Il alla les prendre et les apporta à sa mère, qui en prépara un régal comme l'aimait son père. Rebecca prit les habits d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux qu'elle avait à la maison. Elle en revêtut Jacob, son fils cadet. Avec les peaux des chevreaux, elle recouvrit ses mains et son cou qui était sans poils. Qu'il en avait pas mal, hein, mais les chevreaux vont remplacer, c'est extraordinaire. C'est merveilleux tout ce qu'on peut découvrir là derrière, mais comme symbolisme, hein, c'est extraordinaire. Et ce que les pères de l'Église ont découvert comme symbolisme, parce que c'est évident, c'est assez gros comme histoire, hein. C'est assez énorme, cette manière de changer, et cette manière en même temps de donner au cadet l'apparence de l'aîné. Avec les peaux de chevreaux, elle recouvrit ses mains et son cou, qui étaient sans poils. Puis elle mit dans la main de Jacob, son fils, le régal et le pain qu'elle avait préparé. Il entra chez son père et dit, « Mon père, Isaac dit, me voici. » Oui, c'est renversé. Tout à l'heure, c'était mon fils, me voici. Ici, le dialogue prend, c'est lui qui prend l'initiative. Hein. Mon père, Isaac dit, me voici. Qui es-tu, mon fils? Donc, le moment des moi, parce qu'il ne reconnaît pas Ésaü. Jacob dit à son père, je suis Ésaü, ton premier-né. Non est mandatium, c'est mysterium, hein, c'est là ce que dit saint Augustin, n'est-ce pas? Je suis Ésaü, ton premier-né, j'ai fait comme tu m'as dit. Oui, comme la mère lui donne un toupet sacré, hein, c'est extraordinaire, parce qu'il n'hésite pas d'aller jusqu'au bout, et sans aucune crainte, alors qu'il est timide, mais grâce à l'intervention de Rebecca. Je suis Ésaü, ton premier-né. J'ai fait comme tu m'as dit. Lève-toi, je te prie. Assieds-toi et mange de mon gibier pour que ton âme me bénisse. Il faut aller vite, hein, parce qu'Ésaü pour venir. Isaac dit à son fils, comme, comme tu as trouvé vite, mon fils. C'est, dit-il, que Yahvé, ton Dieu, m'a ménagé une rencontre. Ma rencontre avec Rebecca. Isaac dit à Jacob, avance donc que je te palpe, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. Hein, il y a le doute. Hein. Jacob s'avança vers Isaac, son père, qui le palpa et dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Cette espèce de changement extraordinaire, les apparences et la voix qui ne change pas. On ne peut pas changer la voix. Ça vient de l'intérieur. La voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Et il ne le reconnut pas, parce que ses mains étaient velues comme les mains d'Ésaü, son frère. Il le bénit et dit, « C'est bien toi, mon fils Ésaü, c'est moi, dit-il. » Isaac dit, « Serre-moi, que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. » Alors ça, c'est très très joli, hein, cette espèce d'euphorie, au point de vue biologique, liée à l'âme qui doit bénir. Hein. Pour la théologie des repas, c'est très important pour la théologie des repas, parce que c'est les repas dans Saint Jean, vous voyez, la théologie des repas, là, elle est quand même très très forte, hein. Jacob le servit et il mangea, puis il apporta du vin et il but. Il y a le pain et le vin. Qui n'a pas été chassé. Ça. Donc le pain et le vin sont vrais. Tandis que le fruit de la chasse est moins vrai. Mais là, le pain et le vin demeurent. Isaac, son père, lui dit, « Avance donc et embrasse-moi, mon fils. » Il s'avança et l'embrassa. Quand Isaac sentit l'odeur de ses habits, il le bénit et dit, « Oui, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ qu'a béni Yahvé. Que Dieu te donne avec la rosée du ciel et de gras terroir, abondance de froment et de vin nouveau. » Le pain et le vin. La bénédiction est sur le pain et le vin. « Que des peuples te servent, que des tribus se prosternent devant toi. Sois un maître pour tes frères. Que se prosternent devant toi les fils de ta mère. Maudit soit qui te maudira, béni soit qui te bénira. Comme Isaac achevait de bénir Jacob, et que Jacob sortait tout juste de devant Isaac, son père, Ésaü, son frère, arriva de sa chasse. Ça, c'est très bien joué avec le jeu d'Esprit Saint. C'est merveilleux. Lui aussi prépara son régal. On voit très bien Rebecca. Hein. Elle quitte la cuisine, elle laisse un autre. Hein. Lui aussi prépara un régal et l'apporta à son père. Il dit à son père, « Que mon père se lève, qu'il mange du gibier de son fils. » Pour que ton âme me bénisse. Isaac, son père, lui dit, qui es-tu? Il dit, je suis ton fils, ton premier-né, Ésaü. Isaac fut pris de tremblement, d'un très grand tremblement. Il dit, qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu n'arrives. Je l'ai béni et béni sera-t-il. Très très fort, ça. Point de vue théologique. Lorsque Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa un cri, un grand cri, et amer à l'extrême, il dit à son père, « Bénis-moi, moi aussi, mon père. » Isaac dit, « Ton frère est venu par ruse et a pris ta bénédiction. » Ésaü dit, est-ce parce qu'il a été appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté par deux fois le droit d'aînesse et la bénédiction? Il avait pris mon droit d'aînesse et voici que maintenant il me prend ma bénédiction. Puis il dit, « Ne m'as-tu pas réservé une bénédiction ?» Isaac répondit et dit à Ésaü, « Voici que je fais de lui ton maître. » Et lui donner tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de froment et du vin nouveau. Pour toi dès lors, que puis-je faire, mon fils ? » Ésaü dit à son père, « N'as-tu que cette seule bénédiction, mon père ? Bénis-moi, moi aussi, mon père. » Isaac garda le silence. Ésaü éleva la voix et pleura. Isaac, son père, prit la parole et lui dit, « Voici, loin des gras terroirs sera ton habitat, et loin de la rosée qui descend du ciel. De ton glaive tu vivras, et ton frère tu serviras. Mais à force de vagabonder, tu arracheras son joug de dessus ton cou. » Ésaü prit Jacob en haine à cause de la bénédiction dont l'avait béni son père. Ésaü dit en son cœur, « Proches sont les jours du deuil de mon père, alors je tuerai Jacob, mon frère. » On rapporta à Rebecca les paroles d'Ésaü, son fils aîné. Toujours, elle joue le rôle, voyez, de médiatrice à sa manière, hein, mais c'est bien le rôle de médiatrice. Tout est joué par Rebecca. Vous voyez la différence entre Rebecca et Sarah, hein. C'est Rebecca qui fait renverser l'alliance. C'est elle qui a choisi, et elle a bien choisi. Elle a choisi selon les goûts de Dieu. C'est ça qui est extraordinaire. Alors, il y a une espèce de ruse, oui, il y a une espèce de ruse, mais une ruse qui est à l'intérieur d'une lutte. Alors, c'est du camouflage, et c'est tout à fait du camouflage. On rapporta à Rebecca les paroles d'Ésaü, son fils aîné. Elle envoya appeler Jacob, son fils cadet, et lui dit, « Voici qu'Ésaü, ton frère, veut se venger de toi en te tuant. Et maintenant, mon fils, écoute-moi bien, debout. » Al-Stabat, hein, debout, fuis chez Laban, mon frère, à Haran. Tu habiteras avec lui quelque temps, jusqu'à ce que te détourne la fureur de ton frère, jusqu'à ce que se détourne de toi la colère de ton frère, et qu'il oublie ce que tu lui as fait. Et qu'il oublie, dis pas qu'il pardonne, hein. Il le connaît trop bien. Je t'enverrai chercher de là-bas. Pourquoi serais-je privé de vous deux en un seul jour ? Je crois que c'est très important de comprendre cette épreuve. C'est une épreuve la plus terrible des épreuves, étant donné l'importance que revêt la bénédiction du Père à l'égard de son Fils. Il lui transmet la bénédiction de Dieu. Et il fait cela en instrument de Dieu. Et je crois que c'est ça la clé. On voit comment Dieu avait demandé à Abraham d'immoler son fils. Donc, de jouer le rôle de prêtre à l'égard de son fils. Et puis à la dernière minute, Dieu a arrêté. Il avait simplement demandé l'obéissance. À Isaac, il demande plus. C'est en ce sens-là qu'il y a une croissance, vous voyez, d'Abraham à Isaac. Il demande plus. La bénédiction, qui est un geste paternel et sacerdotal. N'oubliez pas que Melchisédek bénit Abraham. Et le geste sacerdotal par excellence, c'est de bénir. pour vraiment exercer ce geste, il faut être un instrument de Dieu. Et on voit très bien ici la manière dont Dieu va purifier l'instrument. Il va l'éprouver. Comme il a éprouvé Abraham, il va éprouver Isaac dans son rôle propre d'instrument, pour qu'il aille jusqu'au bout de son instrumentalité, puisqu'ici il doit aller jusqu'au bout, même s'il faut susciter la colère d'Ésaü, du fils aîné. C'est la colère du fils aîné par rapport au cadet qui usurpe. C'est extraordinaire, ça. Le cadet qui usurpe la bénédiction du fils aîné. Et pourquoi ? Parce que le fils aîné a vendu son droit d'aînesse. Il ne faut pas oublier. Il a vendu son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Et ça, la mère l'a gardé dans son cœur. Le jour où le fils aîné vend son droit d'aînesse, il n'est plus digne de recevoir la bénédiction. Et parce qu'il n'est plus digne de recevoir la bénédiction, il faut que l'autre passe. Mais Isaac n'aurait pas compris. Parce que lui était incapable de faire ce renversement. Il restait dans la justice de père. Et Dieu va se servir de lui d'une manière instrumental. L'instrument ne sait pas toujours ce qu'il fait. C'est le propre de l'instrument, puisque l'instrument doit regarder plus la cause principale dans les mains duquel il se trouve que l'effet qu'il produit. Et pour nous faire comprendre symboliquement ce que c'est que d'être instrument, et instrument comme prêtre, c'est-à-dire être médiateur entre Dieu et les hommes, et être médiateur pour l'action principale du prêtre, bénir. Bénir, communiquer la bénédiction de Dieu. Et en communiquant la bénédiction de Dieu, communiquer tout le mystère de l'alliance d'amour avec Dieu. Communiquer la fécondité. Toute bénédiction est liée à l'amour et à la fécondité. Dieu va demander à Isaac de réaliser quelque chose qu'il ne peut pas réaliser, humainement parlant. Dieu lui demande de réaliser quelque chose en aveugle. En acceptant d'être complètement dépassé. C'est ce qui explique, voyez, comment Isaac ne se met pas en colère. Un tremblement, c'est le signe de la pauvreté. Il est complètement dépouillé. Au moment où il réalise qu'il a béni Jacob, il n'y a pas une exultation de joie, il n'y a pas une colère, ce qui aurait pu être humain, vous voyez, la colère aurait été humaine, tu m'as trompé, ça aurait été humain, l'exaltation de joie aurait pu être humaine, j'ai béni celui que Rebecca voulait, il le savait bien. J'ai béni celui que peut-être dans le fond de son cœur il aimait plus. C'est possible, étant donné que les filles, les femmes d'Ésaü n'étaient pas pratiquement ce que Isaac aurait souhaité. Donc dans le fond de son cœur, il aurait peut-être souhaité que Jacob passe devant. Ce qui est très très beau, c'est de voir le tremblement de l'instrument. La crainte de l'instrument, la purification de la cause instrumentale, qui ne veut faire qu'une seule chose, ce que Dieu veut qu'il fasse. C'est pour ça que je dis bien la purification qui est demandée à la paternité d'Isaac, c'est de devenir un instrument aveugle de Dieu. Ce n'est pas lui qui a choisi, c'est Dieu qui a choisi pour lui et qui a fait passer devant celui qui, humainement parlant, ne devait pas passer devant. C'est Dieu qui a fait ça. Et Isaac prend conscience qu'il est instrument de Dieu, et parce qu'il prend conscience qu'il est instrument de Dieu, il ne se met pas en colère. Mais il est secoué de ce tremblement. Donc, du don de crainte, comme toujours. L'instrument, quand il s'aperçoit qu'il a réalisé quelque chose qui n'était pas selon sa volonté, c'est le don de crainte qui le saisit, pourvu que ce soit bien la volonté de Dieu. C'est la seule chose qui compte. Le reste, ça n'a pas d'importance. Pour l'instrument comme instrument, c'est la seule chose qui compte, que ce soit la volonté de Dieu. Puisque l'instrument ne fait pas son œuvre. Il ne peut pas faire son œuvre, autrement il n'est plus un instrument. Et en tant que prêtre, il ne peut être qu'instrument. En tant que père, il est cause seconde, père selon la chair et le sang. Mais en tant que prêtre, il est instrument. Et c'est pour ça qu'en tant que prêtre, bénir. Il n'a qu'une seule question, qu'un seul désir. C'est l'accomplissement plénier de la volonté du Père. Je crois, voyez, que c'est ça la signification au plan théologique de ce passage, qui est très très beau, qui est merveilleux. Alors évidemment, on peut le regarder d'un point de vue purement humain, petite scène de ménage. Voyez bien, dans ce foyer, on voit très bien, tout s'éclaire, il y avait une tension très grande entre Isaac et Rebecca, il y avait une tension très grande entre les deux, entre Ésaü et Jacob. Eh bien oui, c'est la femme qui l'a emporté. C'est sûr. Hein. Et c'est elle qui a eu le dernier mot. Elle a eu le dernier mot avec sa complicité avec son fils, avec Jacob. Elle a eu la complicité. Et donc c'est elle qui l'a emporté. Et Isaac a été complètement roulé. Ésaü, on n'en parle pas. Ésaü, c'est assez gros. Alors, c'est normal. Mais Isaac, c'est différent. Alors, on peut traiter ça comme ça. Évidemment, ça n'a aucun sens. Pourquoi l'Esprit Saint nous donne-t-il cette scène de ménage? Qui, voyez bien, n'est pas seulement une scène de ménage, hein. On est devant une dimension religieuse. C'est pour ça que je dis sacerdotale, la bénédiction. Et ça ne peut pas se comprendre en dehors de l'instrumentalité, donc en dehors du sacerdoce. Parce que le Père comme Père, il est cosmos. Et donc, s'il était cosmos et qu'il s'aperçoit qu'un autre est passé à la place de celui qu'il voulait bénir, il se serait mis en colère. Et il avait le devoir de se mettre en colère. Il ne faut pas dire qu'il est trop vieux, il ne peut plus se mettre en colère. Non, non, pas ça du tout. C'est, au contraire, c'est la colère d'un vieillard, c'est extraordinaire. Parce que c'est pur, c'est limpide. C'est vraiment une colère sainte. Non, il ne s'est pas mis en colère. Parce qu'il est instrument. Il ne fait pas son œuvre. Il veut qu'une seule chose, c'est que la volonté de Dieu soit accomplie. Mais ce n'est pas commode, hein, de discerner la volonté de Dieu. Et tout se comprend alors dans cette lumière-là. C'est cette purification de l'intelligence. Le passage de la cause seconde à l'instrument. Quelque chose de très très grand, ça. Vous voyez, qui est déjà ébauché chez Abraham. mais qui n'est pas accompli. Ébauché en ce sens que Dieu demande à Abraham d'offrir son fils. Donc c'est plus qu'ébauché, parce que ça a été jusqu'à la dernière, au dernier moment. Mais ça n'a pas été jusqu'au bout. Ici, ça a été jusqu'au bout. Il y a un achèvement. La bénédiction s'est parfaitement accomplie. Et quand Ésaü est rentré, quand Ésaü est arrivé, c'était terminé. Et le pauvre Ésaü a cherché à avoir une bénédiction, au moins quelque chose. Et Jacob, c'est pas très, Isaac ne sait pas très bien quoi faire. Tellement la bénédiction pour le fils aîné était totale. Il n'avait pas une bénédiction de droite et une bénédiction de gauche. Hein. Une bénédiction, un papier pour le fils aîné, un papier pour le second. Non, il n'y avait qu'une seule bénédiction. Une seule bénédiction. Et c'est le cadet qui est tout. C'est extraordinaire ces choses-là. Si on essaie de comprendre l'économie divine à travers ça, parce que c'est quand même quelque chose que Dieu nous apprend par rapport à l'économie divine. Et voyez le rôle de la mère. Alors là, c'est extraordinaire, le rôle de la mère. Tout ça ne s'est réalisé que grâce à la mère. Comme si la médiation sacerdotale ne pouvait se réaliser pleinement que grâce à la mère.